t'aime, et c'est la voix qui me dit suis-moi. Donc nous voulons continuer notre série d'études dans l'épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Ça fait quand même quelques dimanches qu'on est dans ce chapitre 3. Et c'est un chapitre, bon, premier abord, première lecture, qui semble être assez difficile. Et parce qu'il y a pas mal de concepts qui sont un peu nouveaux. Alors nous progressons doucement. Éphésiens chapitre 3. Et je vais lire encore une fois les 13 premiers versets. Parce que c'est justement ces 13 versets sont cette, comme on a dit, cette parenthèse là. Paul a commencé une prière au verset 1 du chapitre 3, puis après il reprend sa prière au verset 14. Mais entre les deux, il a une explication là concernant le mystère de Christ. Chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il l'a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre des saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Ce sont les versets 10 à 12 qui nous intéressent ce matin. Il dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Donc, le mot clé que nous avons pris, c'est au verset 11, le dessein éternel. Le dessein éternel de Dieu, c'est un peu notre thème ce matin, mais c'est tout le thème de ce chapitre aussi, de ces versets, ce passage. Là, depuis que nous avons commencé ce chapitre 3, nous avons vu des termes nouveaux, la dispensation de la grâce de Dieu. Hein, il y a une dispensation qui la précède, c'est celle de la loi de Moïse, où il fallait se plier à des commandements et remplir... obéir à des commandements et essayer de les remplir et la constatation a été qu'on ne pouvait pas, même les pharisiens ne pouvaient pas prétendre avoir gardé toute la loi malgré leurs efforts. Et donc depuis la croix et après Pentecôte, alors nous rentrons dans une nouvelle dispensation, une nouvelle économie, une nouvelle période qu'appelait la grâce, celle de la grâce de Dieu. Nous avons le terme au verset 3, il nous parle du mystère. Verset 9, il nous parle de la dispensation du mystère. Et nous avons vu que ce mystère, c'est le fait que païens et juifs puissent se retrouver dans un même corps, dans le Seigneur. Et ça a été révélé dans les derniers temps. Et aujourd'hui, eh bien, nous voyons ce terme, le dessein éternel de Dieu, ce projet, ce plan de Dieu, ce dessein éternel de Dieu. Et finalement, c'est la même chose, hein, ce mystère, c'est ce dessein de Dieu, c'est ce projet qu'il avait de que tout soit rassemblé en Christ, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, hein, tout en Christ. Donc, ce que nous devons retenir, le point essentiel, c'est que depuis ce soir, ou ce jour, ce matin, en fait c'était le matin que c'est arrivé, quand les disciples se trouvaient depuis 10 jours dans la chambre haute à Jérusalem, hein, Jésus était monté vers la gloire, il les avait quittés, donc 40 jours après la résurrection, et puis ensuite il leur a dit d'aller dans la ville et d'attendre de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera une puissance de Dieu, et puis qui fera de vous des témoins. Et il avait parlé, il a dit, voilà, c'était la parole dont avait parlé Jean-Baptiste, il avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et donc ils attendaient cela, et justement, donc au chapitre 2 des Actes des Apôtres, eh bien il y a cette effusion de l'Esprit qui descend, et ça marque le commencement d'une nouvelle dispensation où les choses se feront autrement. C'est plus une question de garder la loi, c'est cette nouvelle dispensation, celle de la grâce de Dieu. Et c'est un nouveau régime. Et la principale caractéristique de cette période, et c'est celle dans laquelle nous nous trouvons, hein, puisque nous sommes après la croix, c'est que justement, c'est la dispensation de la grâce. Hein, la grâce, ça veut dire qu'on nous accorde quelque chose qu'on ne mérite pas. Et l'apôtre Paul a eu cette, et nous l'avons dit déjà plusieurs fois, et il le dit au verset 9, il a été accordé d'annoncer cette grâce aux païens, de leur dire, écoutez, maintenant, vous n'êtes pas obligés de renier vos origines et devenir juif et rentrer dans une nouvelle culture pour accéder à Dieu, et puis après venir avec des offrandes et venir jusqu'à l'autel et trouver un prêtre et puis qui prend votre offrande et votre sacrifice. Ça y est, le sacrifice suprême a été fait. Maintenant, vous n'avez plus cela. Maintenant, vous venez, c'est une grâce de Dieu, vous venez, vous adorez Dieu directement. Et Paul s'en est fait un plaisir de pouvoir annoncer cela. Déjà pour les juifs, parce que c'était un soulagement, et puis aussi pour les païens, parce que c'était aussi une bonne nouvelle pour eux. Et il parle que ce mystère lui a été révélé à ce moment-là, après la croix. Et donc maintenant, tous, juifs ou païens, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, que Christ est mort sur la croix pour leurs péchés, tout cela, eh bien, tout d'un coup, se retrouvent ensemble dans un corps spirituel, que le Nouveau Testament va appeler l'Église. Hein, le mot Église est Ecclesia, ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc c'est des gens qui ont été prélevés et qui forment quelque chose. Hein, c'est ça le mot Église. Et donc, et l'information nouvelle, eh bien, au verset 10, donc on arrive au verset 10, il dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc, ces autorités et ces dominations célestes vont découvrir, grâce à l'Église, ce qui n'avait jamais été révélé avant, ce qui ne se savait pas avant. Alors peut-être la première question qui vous vient à l'esprit, mais bon, c'est qui ces dominations et ces autorités? Eh bien, rapidement, hein, après on va regarder quelques versets, mais rapidement, ce sont c'est tout le monde angélique. Donc, les saints anges, ceux qui sont dans le ciel, et les anges déchus. Tout ce monde-là se représente les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Regardez dans Éphésiens chapitre 1, verset 21, il fait référence à cela. Donc, Éphésiens 1, 21, il parle au-dessus de tout, parlant de Christ, je vais commencer au verset 20, il dit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. » Donc déjà, il emploie le mot « domination et autorité ». Dans le chapitre 6, Éphésiens chapitre 6 et verset 12, donc, chapitre 6, verset 12, il nous parle de « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc il y a ce... Non, c'était pas le 12, ça. Verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, là aussi, il parle de ce monde invisible c'est, qui existe, qui est réel et qui est là. Colossiens chapitre 1 et au verset 16, Colossiens chapitre 1, verset 16, parlant de Christ, il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et Colossiens chapitre 2, verset 15, il dit, parlant de Christ, hein, par la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et donc, cette autorité, cette domination, c'est tout le monde est angélique. Maintenant, j'ai dit les saints anges et j'ai dit les anges déchus. Parce que, rapidement, entre parenthèses, il fut un temps où tous les anges, tous étaient des anges, dans la présence de Dieu. Et Satan était certainement le supérieur, le plus beau, le plus glorieux de tous ces anges, et il s'est regardé. Au lieu d'avoir les yeux sur Dieu, il s'est regardé et puis il s'est trouvé beau. Et il s'est dit, mais moi, rien ne m'empêche d'être un Dieu aussi. Et ses pensées sont montées, et c'est l'orgueil qui s'est créé dans son cœur, ses pensées ont provoqué, et c'était le début de l'orgueil. Et à partir du moment où il a pensé que lui pouvait être Dieu, et bien à ce moment-là, il a été renvoyé du ciel avec tous les anges qui se sont associés à lui. Et donc, c'était là le commencement de Satan, Lucifer, et il y a d'autres termes qui sont employés aussi, et tous les anges qui l'ont accompagné, et donc eux, sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les démons et les mauvais esprits et tout cela. Hein, donc il y a une rébellion et donc Satan, et donc comme c'était une rébellion, ben Satan il est là tout le temps en train pour mettre pas seulement les bâtons dans les roues, mais il essaye de gêner l'œuvre de Dieu. Son intention c'est de défaire l'œuvre de Dieu. Mais il y a une partie des anges qui sont restés fidèles à Dieu et donc eux sont les saints anges. Il y a eu un moment où tous les anges ont dû prendre une décision. On reste avec Dieu, on part avec Satan. Hein, donc il y a une décision, et leur décision, ben, elle est finale. C'était en pleine connaissance de cause qu'ils ont fait ce choix. Donc Dieu ne leur a jamais proposé un moyen de salut. Tandis que pour l'être humain, il a été trompé dans le jardin d'Éden. Et donc, Dieu va lui proposer un moyen de salut. Vous voyez, la grâce de Dieu, elle est toujours là. C'est pour ça que j'aime Dieu. Et donc, là où, donc c'est là pourquoi on parle des saints anges. Et donc en général, quand on parle des anges, on parle de ceux-là. Et puis après, des anges déchus, ben, on parle des démons, des mauvais esprits, et des esprits malins, et toutes sortes de choses, et qui ont des pouvoirs différents. Il y a toute une hiérarchie, tout comme dans le ciel, même dans le monde angélique, il y a une hiérarchie, ben, il y en a une dans le monde satanique. Mais les pouvoirs sont réels, et les pouvoirs sont supérieurs à ceux de l'être humain. Et donc c'est pour ça qu'il y a une certaine crainte. Mais ce que c'est une chose, et vous avez besoin de le savoir, c'est que quand Dieu a créé les anges, il ne les a pas créés omniscients. Omniscients, ça veut dire qu'ils ne savaient pas tout. Eux ne pouvaient, ils sont des créatures, et donc ils peuvent seulement apprendre au fur et à mesure qu'on leur donne l'information. Ils ne savent pas tout. Ça veut dire Satan inclus. Et ça veut dire que Satan ne sait pas tout. Et ne lui accordons pas le pouvoir qu'il n'a pas. Et puis en passant, je vous dis, il n'est pas omniprésent non plus. Il n'est pas présent partout. On le sent peut-être partout parce que par le biais de ses anges, il arrive à se faire ressentir partout dans le monde. Mais il est quand même, il doit se déplacer s'il veut être quelque part. Et il n'est pas omniprésent. Donc on deux personnes, une en Amérique et une en Europe et une en Inde, ne peuvent pas dire Satan m'a tenté. Il n'est pas présent partout. Bon, il se déplace rapidement, c'est sûr, mais ça c'est autre chose. Mais bon, il arrive à faire ressentir ça. Tout comme on parle d'une certaine époque de l'Angleterre, l'Empire anglais, ben, qui se faisait ressentir le monde entier. Il dit le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Ben, c'est par leur présence, la présence qui se faisait ressentir. Satan un peu emploie cette tactique-là et chacun a ses charges et ses responsabilités qu'ils reçoivent de lui. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette question-là plus que cela, mais sachez que je vais juste pour vous rassurer, c'est que lorsque nous sommes dans Jésus-Christ, Christ est plus fort que Satan et donc on ne craint rien. Hein? Donc on a sa protection. Oh, il peut nous jeter des pierres, hein. Mais on est protégé. On arrivera au chapitre 6, on verra l'armure du chrétien et on pourra parler un peu plus de cela à ce moment-là. Donc les anges, je vous ai dit, ne sont pas omniscients. Donc ils ne savent pas tout et ils ne connaissent pas tout le plan de Dieu. Et à moins qu'ils le révèlent, et eux lisent la Bible pour savoir un peu ce que Dieu a intention de faire, mais ils savent que ce qui est révélé. Déjà dans Job 38 verset 7, il nous parle des anges qui étaient présents à la création et qui se sont réjouis. Il nous parle des fils de Dieu. Hein, les fils de Dieu, et là c'est le terme qui représente, qui exprime les anges. Et donc, quand ils voient la création, ils voient Dieu qui a créé l'univers. Donc, pour nous, ça commence à Genèse chapitre 1, mais eux, apparemment, ils étaient là, et ils ont vu la création, et ils ont trouvé ça beau, et ils ont admiré la création de Dieu, ils se sont réjouis, ils ont loué Dieu pour la création. Et ils l'ont vu tel que nous, on ne la voit pas, même dans les photos, hein, de Verfort, on arrive à trouver des belles photos, il y a des coins encore qui sont pas mal. Après, chacun il pense que c'est dans son pays qu'il y a le point, l'endroit le plus beau du monde. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Mais la question, c'est que ce qu'eux ont vu, c'est encore plus beau que le plus beau qu'on puisse trouver, nous, déjà, sur cet univers. Parce que le passage de l'homme a quand même fait des dégâts. Et le passage du péché et tout cela, ça fait du tort. Mais eux ont loué le Seigneur. Ensuite, nous avons... Lorsque Jésus-Christ est né, vous souvenez, les bergers étaient là dans les champs et ils se sont réjouis de ce que le Sauveur soit venu. Hein, vous vous souvenez cette chorale céleste hein, dans Luc chapitre 2, les versets 13 et 14. Se sont réjouis devant les bergers de ce que le Sauveur soit né. Et dans Luc chapitre 15, vous entendez la parabole de Christ où il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc à chaque fois qu'un être humain se repent de ses péchés et se tourne vers Dieu, eh bien les anges se réjouissent. Vous savez pourquoi ils se réjouissent ? Parce que finalement ils font écho à la joie de Dieu. Dieu se réjouit. Quand Dieu a regardé la création et puis il a dit « c'est beau », eux, ils ont chanté. Quand un pécheur qui va vers la perdition, mais qui fait demi-tour et s'y lève les regards vers Dieu, eh bien, Dieu se réjouit et les anges chantent un cantique. Et vous savez, c'est un peu ce qui caractérise un peu l'Église, les chrétiens, les vrais chrétiens aussi aujourd'hui. On chante plus que n'importe qui. Et les chants, c'est des chants joyeux. Ce n'est pas des chants d'enterrement, c'est des chants joyeux. Certains même vont jusqu'à danser. Mais c'est la joie. C'est la joie de et on s'associe et on se réjouit lorsque, bon, dimanche dernier, quand quelqu'un a annoncé que le frère Jean-Marc a reçu le Seigneur, pas tout le monde s'est réjoui. Mais on fait écho à la joie qui est déjà chez le Père. Et que les anges, et puis après ça vient jusqu'à nous. Et on s'aligne, on synchronise nos pensées sur ceux de Christ. Et puis dans 1 Pierre, chapitre 1, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais 1 Pierre, chapitre 1, surtout le verset 12, donc je vais commencer à lire au verset 10, mais c'est dans le verset 12, il nous parle encore de ces anges. Mais 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, dit « Les prophètes ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, et ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Déjà, il a dit, les prophètes, à leur époque, les textes étaient révélés, et après eux, ils étudiaient cela pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Verset 11, « Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc ils ont compris que le Messie allait venir, qu'il allait souffrir, puis ensuite il y aurait un aspect glorieux. Verset 12, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, et qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses » que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc il dit, et donc c'était eux, les prophètes de l'Ancien Testament, ont vu ces choses, et ils l'ont vu par la foi, mais ils savaient que ce n'était pas pour eux, c'était pour plus tard, donc pour nous. Et puis après, regardez la fin du verset 12, il dit, « Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Il dit, « Les anges... » Et pas seulement les anges célestes, parce qu'ils disent, mais nous on va lire le livre aussi, parce qu'on veut savoir ce que Dieu est en train de faire. Et parce que leur désir, c'est de rester synchronisé aux pensées de Dieu. Mais bon, et quand il parle des anges, il parle de Satan aussi. Satan étudie la Bible aussi. C'est pour ça que lui savait que Jésus-Christ devait naître à Bethléem. Et il l'attendait. Et... dès la naissance de Jésus, il commençait à le menacer sa vie. Donc il était là, et pour lui, parce qu'il avait compris que le Messie, c'était le sauveur du peuple Israël, et comme il est opposé, eh bien, il était là. Et il s'est servi du roi Hérode, il s'est servi d'autres choses, et finalement, c'était lui qui était là pour tenter Jésus dans le désert. Vous vous rappelez, 40 jours, il était là, il s'est présenté personnellement. Moi, je n'ai pas Satan personnellement qui vient me voir, parce qu'il arrive à me faire trébucher avec moins que ça. Mais pour Jésus, il s'est déplacé personnellement, il a pris ça au sérieux. Et puis, certainement, dans le jardin de Gethsémané, là, quand c'était la lutte, et jusqu'à la sueur des gouttelettes de sang, c'était certainement aussi les pressions de l'ennemi. Mais il y a une chose que Satan n'a pas vue, il n'a pas vu que viendrait le jour où juifs et païens seraient rassemblés. Ça, c'était pas clair, c'est là, maintenant qu'on le sait, on le voit un petit peu, mais personne ne l'a vu. Et même Satan n'a pas vu, et donc il n'a pas prévu. Et il a été pris de revers, dans un sens, à Pentecôte, quand tout d'un coup, le message est pour tout le monde. Lui il était un peu content de lui, parce qu'il avait réussi à agir dans le peuple juif de l'époque, et ils ont rejeté le Messie. Alors il était content. En plus, ils l'ont tué, tant mieux. Maintenant, je suis un peu tranquille. Et puis tout d'un coup, boum, et ça part... Hein, c'est pour tout le monde. Et il n'avait pas prévu ça. Et tout d'un coup, l'évangile se propage. Et les païens se réjouissent de pouvoir recevoir l'évangile. Et l'apôtre Paul, dans toutes les villes où il passe, il y a du monde qui reçoit l'évangile. Et de nos jours, eh bien, l'évangile, là, juste, je viens de lire. C'est une émission hein, qui était à la télé où ils disent. En France même, le mouvement évangélique est en pleine croissance et il n'a jamais été aussi, ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'ils le sont aujourd'hui. Il dit, il comparait aux années 50 et à maintenant et c'est, ça a multiplié. L'évangile pénètre et même en France, là où on se dit les gens ils sont vraiment anti-Dieu, eh bien l'évangile pénètre. La parole de Dieu pénètre. Elle est en train de pénétrer dans les pays musulmans, elle est en train de pénétrer dans les pays hindous, elle est en train de pénétrer chez les athées, elle est en train de pénétrer dans, au fin fond de la jungle, de l'Amazonie. Elle pénètre partout. Et pourquoi ? Eh bien, ça, c'était quelque chose que Dieu avait gardé jusqu'à ce que Christ meure, parce que tout dépendait de la mort de Christ. Et quand Christ est mort, il a dit, bon, maintenant je peux vous en parler parce que c'est trop tard, vous ne pouvez pas le défaire. C'est fait. Et donc, c'est pour ça qu'il nous parle dans Éphésiens chapitre 3. Il dit, eh bien, les dominations et les autorités, donc le monde angélique, beau et mauvais, eh bien, c'est par l'Église qu'ils prennent connaissance. Ça a été révélé à l'Église et c'est là qu'ils découvrent cette réalité. Et eux qui avaient été là quand Dieu a créé le monde, hein, vous connaissez ce verset, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce verset-là, nous avons les trois éléments, le temps, l'espace et la matière. Et pour avoir un univers, il faut que les trois soient là en même temps. Le temps, l'espace et la matière. Eh bien, au commencement, c'est le temps qui commence. Dieu créa les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. Tout est là, le même instant. Parce qu'on ne peut pas imaginer l'espace sans le reste, ça ne veut rien dire. Le temps, alors qu'il y a les autres ne sont pas là, n'importe lequel ne peut pas exister tout seul. Et il faut rassembler les trois et c'est ça qui fait notre univers. Et c'est pour ça que certaines explications qui nous sont données par ailleurs sont difficiles à croire. Il faut vraiment faire des efforts mentaux pour essayer de les recevoir, de les saisir. À moins de vraiment être... délibérément, on veut exclure Dieu de l'image. Après là, bon, après, on accepte n'importe quoi. Mais à partir du moment que Dieu est dans l'image et dans l'équation, eh bien, la Bible est là, elle part de cette création. Et les anges étaient là, ils ont vu cela, ils se sont réjouis. Mais là, ils voient encore quelque chose de nouveau. Dieu crée un peuple nouveau. Et un peuple qui sera éternel et pour sa louange. Et le monde des gens, les anges, les saints anges s'en réjouissent. Et bon, les anges déchus, ben pour eux, c'est leur problème. Mais bon, leur souci ne m'intéresse pas trop. Ce qu'on voit, c'est que dans ce il nous parle de dessein éternel. Éternel dans le sens que il y pense. Dieu l'a pensé. Avant le temps, avant Genèse chapitre 1, et il a pu protéger son plan Et il a pu le réaliser. Et donc, c'est là la puissance de Dieu. Et Dieu a pu se créer un peuple qui le désirait. Et donc, l'Église de Jésus-Christ est composée de personnes qui veulent Dieu. C'est pas des gens qui sont nés dedans et puis, bon, ben, je peux rien, je suis dedans, je suis tombé dans la marmite. Non, non. Je suis. L'Église de Jésus-Christ, c'est un peuple où tous ont choisi de l'être. Ça ne change que celui qui soit né dans une famille chrétienne. Seul avantage, c'est qu'il est informé plus tôt. Mais il doit faire ce choix. Et celui qui n'est pas né dans une famille chrétienne et qui est né par autre chose, il a toute une gymnastique pour se défaire, pour arriver à là. Mais il vient à Jésus-Christ. Et donc, c'est un peuple formé de personnes qui désirent être avec lui. Et donc, de même que les anges ont loué Dieu lors de la création, de même qu'ils ont loué Dieu à la naissance du Sauveur, de même qu'ils louent Dieu quand un pécheur se repent, eh bien, ils éclateront d'allégresse quand les rachetés apparaîtront dans la présence de Dieu. Regardez Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5 et les versets 9 à 14. Apocalypse 5, 9 à 14, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, ou milliards de milliards, et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard se prosternèrent et adorèrent. Il dit, il y a encore là, quand il va voir finalement ce dessein éternel que Dieu avait de rassembler un peuple pour former un nouveau corps, ceux qui sont extraits d'eux, l'Église de Jésus-Christ. Et ça a été remplacé, ils ont été rach... ça a été rendu possible. Grâce au sang versé de Christ, eh bien, quand ce monde arrivera dans les gloires célestes, eh bien, il y aura un chant nouveau à la gloire de Dieu. Ils sont là, ils ont chanté pour la création, c'était beau, mais là, quand l'épouse de Jésus-Christ arrivera, alors là, c'est un chant nouveau qui sera jusque dans l'éternité. Et dans Apocalypse chapitre 12, il nous dit plutôt que Satan ou le dragon, eh bien, lui, il est précipité du ciel et dans une grande colère. Hein. Apocalypse 12, versets 9 à 12, il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, vous savez, celui du Jardin d'Éden, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été, il, c'est-à-dire Satan, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. C'est cette réjouissance, c'est ce. Et l'apôtre Paul, il dit, oh, c'est extraordinaire. Et ce plan, oui, dessein éternel. Mais c'est pas, il faut pas penser dans le sens d'une prédestination, une fatalité. C'est des mots qui oppriment. Là, c'est Dieu avait un plan de sauvetage. Et il l'a gardé jusqu'à ce que ça soit garanti. Quand Christ est mort sur la croix, c'était garanti. Et alors il a dit, écoutez, voilà mon plan. Et c'était trop tard pour que quelqu'un vienne l'empêcher. Et donc, je reviens à Éphésiens chapitre 3, verset 10. Il nous dit justement, il nous dit cette sagesse infiniment variée de Dieu. Il a dit cette connaissance-là, c'est une sagesse infiniment variée de Dieu. C'est intéressant, là, ça ne ressort pas dans le français, mais le mot infiniment varié, on traduirait par multicolore. Il dit c'était sa sagesse multicolore de Dieu. Bon, vous dites, la sagesse n'a pas de couleur. Oui, mais quelque part, j'aime bien ça, parce que vous savez, quand Dieu a créé le monde, ben, c'est multicolore. Hein. Il aime bien les couleurs. Moi, c'est un Dieu qui voit tout en couleurs. Il met des couleurs de partout, même chez les êtres humains, n'est-ce pas? Hein, il met de la couleur, tant de couleurs. Et les couleurs varient en fonction de l'éclairage et de la lumière et tout ça, toutes ces choses extraordinaires, tout basé sur de la lumière. Eh bien, il dit, et il parle de cette sagesse infiniment variée, il dit cette sagesse multicolore de Dieu, eh bien, ça ressemble à mon Dieu, n'est-ce pas? C'est le Dieu créateur, là, je le reconnais aussi. Il a pu réaliser ce plan grâce à la mort de Christ sur la croix. Vous savez, quand vous pensez à la croix, c'était le moment, disons, de l'époque, c'est-à-dire cette période où, de Jésus-Christ sur la terre, ce ministère terrestre, de tout ce ministère-là, c'était le moment le plus bas. C'était où il est le plus faible sur la croix. Et de toute apparence, il avait l'air d'être vaincu. Hein, les disciples l'ont cru, les ennemis l'ont cru, tout le monde a cru que c'était terminé. Voilà. Eh bien, vous savez, dans ce moment le plus faible, c'est là où il a remporté la plus grande victoire. Parce que c'est par cette mort-là que tout est possible. Tout ce que Dieu a à offrir est rendu possible. Alors, je vous dis, si dans ce moment où il était le plus faible, il a fait une chose aussi glorieuse, maintenant qu'il est dans la gloire, de quoi craignez-vous? Hein? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Eh bien, c'est déjà, quand je pense à ce que tu as pu faire sur terre, quand tu t'es laissé faire, maintenant que tu es dans la gloire et tu as toute puissance, tout pouvoir m'a été donné, il a dit... En Matthieu chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Vous savez, nous n'avons rien à craindre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on n'a pas à craindre le malin. Il peut nous faire de vilaines grimaces, il peut nous souffler du chaud et du froid, il peut faire toutes sortes de choses. Mais ça ne bouge pas. Hein. On appartient à Dieu. Et puis, en plus, on est scellé par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus est avec ses disciples. Donc, chapitre 16, vous savez que c'est dans la chambre haute. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses, parce que la soirée, là, il a parlé de beaucoup de choses. » Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses, il y aura des moments difficiles, mais sachez, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Et dans son épître, l'épître de Jean, chapitre 1, verset chapitre 4, verset 4, hein, 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il dit, petits-enfants, vous vous sentez petit chétif, hein, vous ne vous sentez pas très, très puissant. Il dit, dans votre faiblesse, vous n'avez rien à craindre, parce que celui qui est en vous, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, eh bien, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, il est dans le monde, et il fait du bruit, et il fait des dégâts, et il fait du tapage, et il fait... Il y a beaucoup d'activité pour donner l'impression de puissance. Hein? Quand vous avez une mobilette qui n'a pas beaucoup de puissance, vous enlevez le pot d'échappement, comme ça on a l'impression que c'est puissant. Ça fait beaucoup de bruit en tous les cas. Et vous savez, des fois, le bruit, c'est pour tromper, pour donner l'impression de puissance. Et le diable est là dans ce monde, et il est en train de faire du remous, et le bruit des armes, et le bruit des cris de douleur, et le cri de la souffrance, et tout ce bruit-là. Mais il dit, ne craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous pouvons, il a dit, je vous donne, afin que vous soyez dans la paix. Paisible, serein, continuez votre chemin. Parce qu'il a vaincu le monde. Ça, c'est notre Seigneur. Ça, c'est le message. C'est le plan infiniment varié de Dieu. C'est ce dessein éternel de Dieu. Et donc, nous pouvons trouver notre consolation là-dedans. Et je termine avec le verset 12. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, sinon de réaffirmer ce qui est là. Il dit, nous avons par la foi, en lui, c'est-à-dire en Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il y a des gens qui, rien qu'à la pensée de Dieu, ils tremblent. Oui, c'était... Vous savez, si on a fait des bêtises, on a peur du principal. Si on a fait des bêtises, on a peur du gendarme. Si on a fait, c'est-à-dire, mais oui, mais là, tout est réglé. Il n'y avait rien à craindre. Vous savez, on ne s'approche pas de Dieu comme si on était un captif qui voulait plaider pour sa vie. On n'approche pas de Dieu comme un esclave qui cherche une faveur de son maître. Mais on s'approche de Dieu comme des fils dans la présence de leur père. On raconte qu'une fois, il y avait un journaliste qui avait fait toutes des démarches et tout ça pour avoir un entretien avec le président des États-Unis dans la Maison Blanche. Et il avait toutes sortes de démarches et tout ça. Ça avait pris des mois pour entrer. Et il était à peine là. Et tout d'un coup, il y a un petit gamin qui arrive en courant comme ça, puis s'assoit sur le genou du président. C'est vrai, la différence, c'est le fils. Mais vous savez, mais c'est plus que cela pour nous, enfants de Dieu. Il y en a qui ils se privent, et ils font des jeûnes, et puis ils font des genuflexions, et puis ils font de ceci et cela pour essayer de s'approcher de Dieu. Et vous savez, vous venez à Jésus-Christ, vous confessez votre péché, vous dites, je crois que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Vous recevez le pardon des péchés, vous devenez enfant de Dieu. Et après, on rentre quand on veut. Dès que je parle, il entend. Parce qu'il reconnaît, un berger reconnaît la voix de ses brebis. Il dit, je les connais. Il dit, vous pouvez vous approcher avec assurance, avec confiance. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est le message. L'apôtre Paul a trouvé un grand plaisir à le prêcher et moi je trouve un aussi grand plaisir à répéter derrière lui que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour que nous puissions être sauvés. Avoir le pardon de nos péchés. Entrer dans ce plan de Dieu, ce plan merveilleux de Dieu. Nous n'avons plus à craindre les ennemis de Dieu parce que nous faisons partie des enfants de Dieu. Et la douce perspective, c'est que après notre passage ici, sur terre, pour certains, c'est un chemin tortueux, pour d'autres, c'est un tunnel, pour d'autres, c'est pénible tout le long, c'est de la côte tout le long. Mais ce que nous savons, c'est qu'au bout du chemin,
il y a le Seigneur. Et ça, ça nous encourage.
Quand je fais des randonnées et que je trouve un chemin, je me dis ça mène quelque part. Parce que la preuve, c'est il y a eu du passage et ça a été quelque part. Je ne rencontre pas des gens qui reviennent. Donc, ça va quelque part. Et Jésus dit à Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Mais je suis le chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un chemin et on n'en a pas besoin de 36. C'était peut-être vrai de Rome que tous les chemins menaient à Rome. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ. Prenons quelques moments de silence pour méditer un peu sur tout cela et ce que ça veut dire pour nous personnellement, pour chacun personnellement. Puis ensuite, je vais conclure par la prière.